Nous sommes mardi matin dans La vie est un roman sur Allegre FM 93.1. Et maintenant, nous allons parler des prénoms. Mon invité se prénomme Anne-Laure et son patronyme est Cellier. Elle a écrit La science des prénoms. Il y a un bandeau imprimé sur la couverture qui dit « À lire avant plutôt qu'après avoir choisi le prénom de votre enfant ». Anne-Laure Cellier est chercheuse en psychologie sociale et cognitive et professeure associée à HEC Paris. Elle propose une version revue et augmentée de l'ouvrage « Le pouvoir des prénoms » enrichi des dernières découvertes en sciences sociales et illustré d'innombrables réactions suscitées par son livre et ses travaux de recherche. La carte de couverture nous dit « Choisir un prénom pour son enfant n'est pas un acte sans conséquence et pour cause. Le prénom influence la vie de celui qui le porte au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, notre prénom nous façonne. » Dans cet ouvrage, l'auteur apporte des réponses concrètes issues des dernières découvertes d'une science des prénoms en pleine effervescence. Je veux dire que c'est assez, stimulant, assez que ça éveille notre curiosité. Et l'éditeur est Héliopole. Alors, que contient la science des prénoms ?
Bonjour Yves, merci d'abord de me recevoir ici à Radio Allegre. C'est un vrai plaisir de prendre le temps ce matin pour réfléchir à cette question qui effectivement paraît un petit peu cocasse. La question est très simple, c'est dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez bien dans votre prénom ? Et c'est une question qu'on ne se pose jamais. Notre prénom est une étiquette sociale qu'on nous donne, on ne la choisit pas. On est dans un monde de choix, on choisit tout aujourd'hui, on choisit même la façon dont on va mourir dans certains pays. Mais on ne choisit pas son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est que nous savons aujourd'hui, grâce à une science, c'est-à-dire qu'on a vraiment des méthodes scientifiques et beaucoup de données, vous aurez entendu parler par exemple du big data ou de l'intelligence artificielle, eh bien ces nouvelles technologies nous permettent de comprendre scientifiquement l'influence que le prénom a sur notre vie. Alors cette influence, on la pressent. Si vous demandez à la plupart des personnes autour de vous s'ils pensent que leur prénom les a influencés ou les influence dans leur vie actuelle, la plupart des personnes vont vous dire oui, mais ça va rarement plus loin. C'est-à-dire qu'on a rarement la notion de la puissance d'abord de cette influence, c'est-à-dire jusqu'où sommes-nous influencés et surtout dans quel domaine. Alors, il y a des domaines où on peut avoir la notion, quand on porte certains prénoms, que, par exemple, ça va influencer la sphère professionnelle. Si vous vous appelez, par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui a été assez connue en France. Si vous vous appelez Mohamed par rapport à Michel, vous envoyez 1000 CV, vous n'aurez pas le même nombre d'appels pour passer des entretiens d'embauche. Bon, et ça, on touche au sociologique, c'est-à-dire que le prénom est finalement un raccourci pour tout un univers imaginé autour du vécu de la personne, de sa catégorie socio-professionnelle, de son origine ethnique, etc. Avec ce livre de la science des prénoms, j'ai voulu aller plus loin, parce que indépendamment de la religion, indépendamment de votre classe sociale, indépendamment de tout finalement ce que les sociologues ont regardé, comme vous l'avez très bien dit, je suis psychologue sociale et cognitive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Yves et son frère jumeau Pierre ont grandi ensemble dans la même maison, ont reçu la même éducation, et pourtant leur vie va être très différente. C'est-à-dire que le prénom en lui-même a une puissance et une influence qui va aller jouer très très loin. Ça va aller jusque dans la sphère personnelle, voire intime. Par exemple, on n'épouse pas les personnes indépendamment de leur prénom complètement. C'est-à-dire que le prénom de la personne dont vous tombez amoureuse vous influence et vous fait que vous êtes attiré plus ou moins par les gens qui vous entourent. Ça paraît cocasse, mais on a encore une fois des données à l'appui pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est un livre qui fait le tour d'une science. On peut parler de science, c'est-à-dire un ensemble de connaissances maintenant qui nous vient largement de la psychologie sociale, un petit peu de la psychologie cognitive, un petit peu de l'économie, des économistes qui se posent sur des questions de prénoms comme ça, Et l'idée était de donner à tout un chacun toute cette connaissance qui finalement est précieuse, parce qu'on a tous un prénom, et puis surtout le jour où on devient parent, on a la tâche extrêmement délicate de choisir un prénom pour notre enfant. Et on est dans un pays qui, en 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en avait à peu près 2000 prénoms, parmi lesquels on choisissait, c'était énorme. Aujourd'hui, on choisit parmi 13 000 prénoms. Donc la donne a changé et on peut se poser la question de si trop de choix, finalement, tue le choix. Surtout pour des parents qui ne savent pas. En général, on a 1-2 enfants en France maintenant de façon plus récurrente. Donc on est littéralement des bleus quand on est en face de ce choix du prénom. Donc on fonctionne typiquement à l'intuition. Et l'intuition, parfois, ça peut faire très mal, comme on le voit dans les florilèges de prénoms qui ont été recalés, sur lesquels nous pouvons lire des informations chaque année. Je pense à Lola Poupoune, je pense à Nutella, il y a peu de temps qui est sorti. Mais attention, le livre ne va pas s'attacher qu'à ces prénoms cocasses. On va aller jusqu'à parler de souffrance du prénom. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, qu'un tiers des personnes en France disent ne pas se sentir bien dans leur prénom. C'est quand même dommage. Et ça peut être un prénom comme Nabucodonosor, où là, on peut effectivement se dire qu'il va se passer quelque chose, tout comme Marie, Sébastien, Benjamin. Je veux dire, il n'y a pas de recommandation à l'emporte-pièce possible sur le bon prénom. Il n'y a pas de bon prénom qui va marcher à tous les coups. Le prénom, c'est comme un manteau, c'est quelque chose dont on va arborer la personne. Et si le manteau tombe mal sur la personne qui le porte, eh bien, la personne va en souffrir. Donc, le livre se propose également d'emmener le lecteur, bon, d'abord derrière dans les coulisses de la science des prénoms. Donc on va expliquer comment on fait toute cette recherche, comment on a pu accumuler cette connaissance. Littéralement, on parle des deux tiers des connaissances qu'on a depuis une dizaine d'années, tout au plus. Et puis évidemment, on va aller poser sur la table la question du changement de prénom. À l'heure actuelle, en France, moins de 3000 personnes changent de prénom chaque année. Et lorsque je vous dis qu'une personne sur trois déclare souffrir de son prénom, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de passages à l'acte ? Alors d'abord, c'est un tabou social auquel on ne pense pas, mais qui est bien là. C'est-à-dire que si vous, Yves, me dites aujourd'hui « j'en ai marre de m'appeler Yves, je vais aller à la mairie pour m'appeler Nicolas », la plupart des personnes autour de vous vont se dire « mais il y a un problème avec Yves ». Il renie ses origines, il va contre la volonté de ses parents, etc. Donc les attributions vont avoir tendance à être plutôt négatives envers vous, alors que ce désir de changement de prénom peut être tout à fait justifié et peut être une véritable bouffée d'air.
Et donc, pour reprendre sur le substrat historique, dans votre livre, vous dites que vers 1820, 2/3 de la population portait 10 prénoms, donc tout le monde portait 10 prénoms.
Tout à fait.
Et donc, il y a une histoire, j'imagine, que la loi de 1906, par exemple, l'ancrage religieux paraît évident. Et il paraît évident sur de gros blocs culturels. Donc, il paraît évident en Afrique, il paraît évident en Asie. On a des cas d'acculturation vraiment flagrants, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont appelé leurs enfants fraternité, égalité, tout ça.
Oui.
Et on peut aussi, par exemple, j'avais reçu une dame qui avait fait un très bon livre qui s'appelait Karine Mirmont sur une prostituée nigériane du bois de Vincennes. Et il y avait toute une histoire de prénoms. Il y a des prénoms en fonction de la personne à laquelle on s'adresse dans la famille. C'est aussi vrai. Chez les Russes, il y a des diminutifs. Il y a toute une... La façon dont on est interpellé donne la place qu'on occupe dans la cellule familiale et qui s'adresse à qui. Il y a effectivement tout un substrat historique très fort. Et ces 13 000 prénoms auxquels on a accès aujourd'hui font effectivement penser au consumérisme, à l'écrasement de tout par la société de consommation, où tout se vaut et tout devient un grand n'importe quoi.
Alors, il y a ce qui est intéressant, c'est très juste ce que vous dites. Donc, d'une part, effectivement, dans la France des années 1820, on avait 2/3 des garçons et des filles qui portaient un prénom parmi 10. Il y avait 10 prénoms qui représentait les deux tiers de la population, donc on imagine Marie, évidemment, Jean pour les garçons, Catherine, Jeanne, etc., qui venait bien évidemment d'une histoire largement chrétienne, hein, c'est-à-dire que, en 1900, je crois que c'est une petite fille sur 11 qui s'appelle Marie, donc on se posait pas la question du choix du prénom, vraiment, c'était quelque chose qui était déjà choisi souvent par les parrains et marraines, donc dans un cadre religieux très clair, très codifié, hein. Il était aussi tout à fait normal de choisir, par exemple, le prénom de la grand-mère maternelle si c'était une fille, et puis du grand-père paternel si c'était un garçon. Donc il y avait beaucoup plus de contraintes en place pour le choix du prénom. Il y avait aussi, à part cette homogénéité apparente, un aspect beaucoup plus ludique et beaucoup plus humain de la façon de se prénommer les uns les autres. Donc vous parlez des Russes qui ont, évidemment, Alexei devient Alyosha, etc. Selon la personne qui va parler à Alexei, il va avoir des diminutifs différents. On a tout à fait la même chose en France. Hein. Je veux dire, ça existait ici aussi. Si cela vous intéresse, l'anthropologue Françoise Zonabend a fait des recherches dans le Limousin où elle montre que la même femme dans un village est appelée Simone le matin alors qu'elle vend des œufs de la ferme. À midi, elle est Marie alors qu'elle officie près de l'église. Et le soir, elle s'appelle, Fernande, parce que le soir, elle fait encore autre chose en bas du village. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fois le contexte, c'est-à-dire la fonction de la personne dans le village, l'heure de la journée et la clique, entre guillemets, qu'elle va rencontrer, qui vont définir des prénoms un petit peu fugaces comme ça. Il était aussi tout à fait courant de changer de prénom au moment où on se mariait. On a des restes de ça, par exemple, dans les ordres, hein, quand on prend le voile, par exemple, dans l'église catholique, on change de prénom. Hein. Mère Teresa s'appelait Agnès, et elle a pris le prénom Teresa. Le pape a changé également de prénom en devenant pape, etc. Donc il y avait ce côté métamorphose au cours de la vie. Mozart a changé de prénom plein de fois. Amadeus est devenu Adam, à la mort de son père. Donc voilà, on intègre finalement les aspérités de la vie, et on s'autorise à changer de prénom, à changer de peau, à muer finalement. Et ce qui est intéressant dans la société moderne, c'est qu'effectivement, d'un côté, on a cette illusion d'avoir plein de prénoms, hein, cette espèce de foisonnement de prénoms et de choix, mais d'un autre côté, les prénoms sont extrêmement figés. On n'en change pas. On n'en change plus. C'est bizarre. Et ça, c'est une origine qui est tout à fait administrative, bête et méchante. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a eu besoin de savoir qu'Yves était Yves et ne pouvait pas être Nicolas, hein, ne serait-ce que pour lui donner un numéro de sécurité sociale. C'est très pratique. Donc, on se retrouve à nouveau à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et on perd toute cette richesse de l'utilisation du prénom, de l'utilisation des diminutifs. Lisez ou relisez Zola, vous allez voir, on utilise rarement le prénom de baptême. Hein, on renomme la personne. Et ça, ça va être vrai en France et ça va être vrai dans l'ensemble des sociétés humaines à travers le monde. Vous allez chez les Indiens d'Amérique, c'est pareil. On voit très très bien, on a tous des exemples qu'on peut aller chercher où ça va être le cas. Donc dans le monde, ce qui est intéressant dans le questionnement de l'influence du prénom aujourd'hui, c'est que d'une part, il y a cette fixité qui n'a aucun lieu d'être. Au-delà de l'administratif, donc on pourrait changer de prénom. D'autre part, on a ce foisonnement de prénoms avec des prénoms de tous bords depuis notamment la loi de 1993, qui, rappelons-nous, avant 1993 en France, il fallait qu'on se cantonne à un corpus de prénoms largement chrétiens, les prénoms du calendrier, plus quelques-uns germaniques et grecs qu'on avait acceptés au fur et à mesure. Mais en 1993, on va exploser ça et on va pouvoir donner n'importe quel prénom à son enfant, y compris des prénoms créés de toutes pièces. Donc on va avoir Solila, Macalo, on peut inventer tout ce qu'on veut, ce qui est grisant pour les parents qui se disent, voilà, moi qui veux évidemment avoir un enfant à la fois ordinaire et heureux, mais surtout grandiose, on va pouvoir enfin s'exprimer dans l'individualisme. Et là, effectivement, on rejoint un semblant de consumérisme où le prénom devient presque une marque. C'est une marque, notre prénom, c'est une étiquette sociale. Et là où il va y avoir une influence formidable, c'est que dans une société où il y a encore 40 ans, je vous aurais appelé monsieur et non Yves, aujourd'hui, le prénom, on fait connaissance, on s'appelle par nos prénoms. C'est presque le patronyme qui est tombé en désuétude. En ligne, on se parle en utilisant le prénom principalement. Et donc, on a ce prénom figé, ce prénom plus varié qu'avant et qui ne va pas forcément avoir de résonance sociale connue et acceptée par les autres, et en même temps qui va avoir une puissance inouïe, littéralement, et donc qui va pouvoir être vécu psychologiquement comme très violent par le porteur du prénom en question.
J'imagine que c'est le triomphe de l'impérialisme américain qui fait qu'on s'appelle par nos prénoms maintenant, vu que chez eux le tutoiement est très facile et chez nous il était très difficile. Et brusquement je me suis mis à penser, moi qui suis né dans la première partie du 20e siècle, j'ai trois prénoms. J'ai le prénom de mon parrain, comme tout le monde,
oui.
Et j'ai un prénom qui me protège de la peste. Qui était le saint traditionnel de la région, donc il s'était encore très codé, et donc je pense à ce qui est peu marqué en France. Je me suis demandé quand on avait inventé le patronyme, en fait, parce que dans le domaine anglo-saxon, les juniors sont très très fréquents, et donc on avait à la deuxième génération, on reprenait le prénom du grand-père. Et donc nous, on n'a pas du tout cette tradition, enfin c'est vraiment pas flagrant. Comme ça, intuitivement, j'ai pas l'impression que ça existe. Alors quand est arrivé le nom de famille en France, en fait? Par exemple, en France,
Autour de l'an 1000, et effectivement, il s'agissait de lier les enfants au père.
Ah, donc c'est ça.
De bien tracer la filiation, oui, et les droits et les terres.
Oui.
Il fallait, et puis quand tout le monde s'appelait Pierre, Luc et Thomas, évidemment, il fallait qu'on s'y retrouve. Donc le patronyme est apparu à ce moment-là. Et puis ce à quoi vous faites référence, les trois prénoms, c'est à partir de 1850, c'est assez récent finalement.
Ah, c'est récent.
Oui, c'est récent. Et c'est pour vous distinguer, parce que des Yves de votre famille, il y en avait peut-être une pelletée. Et donc il fallait savoir que c'était Yves, Pierre, Maurice et non pas Yves, Jules, Jean. Voilà. Et notamment, c'était un vrai casse-tête pour les tombes des soldats de la Première Guerre mondiale, parce que il y avait encore ce côté ludique de l'utilisation du prénom. Donc il y avait des hommes, par exemple, nés Louis, qui se faisaient appeler Pierre sur le champ de bataille et qui sont tirés sous le nom Pierre. Et donc il y a des familles qui, encore aujourd'hui, recherchent leurs soldats disparus. Et c'est un vrai casse-tête parce que le soldat est enterré sous un autre prénom que le prénom de baptême. Donc on voit très bien ce jeu qu'il y avait, ce jeu social et cette respiration qu'il y avait autour du prénom, qui était finalement, c'est une utilisation qui est toujours le cas aujourd'hui, qui est une utilisation tribale. Quand je vous appelle Yves, quand vous m'appelez Anne-Laure, en quelques secondes, quand on fait connaissance, vous m'avez placé. Ça, c'est vous sentez qu'une Anne-Laure, c'est pas une Jennifer ou c'est pas une Anne-Charlotte, c'est différent. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on le documente, on est capable de très très bien le comprendre aujourd'hui. Quand on évoque un prénom, on évoque un stéréotype. Quand je pense à un Yves, sans même le connaître, j'ai une image de ce à quoi un Yves peut ressembler, et vous avez une image de ce à quoi une Anne-Laure peut ressembler. Et ce qu'on a découvert dans une recherche parue il y a maintenant deux ans, c'est que nous avons tous tendance à ressembler à notre prénom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour ça, on a utilisé l'intelligence artificielle pour le démontrer. Eh bien, littéralement, si je montre votre photo, je vous emmène avec moi dans la rue et vous rencontrez une petite centaine de personnes. On leur demande si vous appelez Yves, Pierre ou des prénoms de votre génération qui avaient la même fréquence que Yves ou Christophe peut-être ou Franck. Eh bien, les personnes qui ne vous connaissent pas vont deviner justement que vous appelez Yves, sans se tromper, au-delà du facteur chance. Alors, c'est pas tout le monde qui va vous appeler Yves, évidemment, parce que alors là, ce serait orwellien pour reprendre le thème dont vous allez parler tout à l'heure. Mais les personnes vont dire oui, non, ça c'est plus un Yves qu'un Pierre. On ne sait pas pourquoi. Et ce qu'on est capable aujourd'hui de comprendre, c'est que ça va se voir dans les traits de votre visage. Alors, comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce qu'une Anne-Laure a l'air d'une Anne-Laure? Eh bien, une Anne-Laure, aussi cocasse que cela puisse paraître, nous partageons tous l'idée d'une Anne-Laure. Vos auditeurs ne me voient pas. Ils peuvent penser une Anne-Laure, à quoi ça peut ressembler? Est-ce qu'elle a les cheveux longs? Est-ce qu'elle a les cheveux courts? Est-ce qu'elle est blonde? Est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'elle s'attache les cheveux? Est-ce qu'elle a les cheveux lâchés, bouclés, lisses? Et ils ont un stéréotype, pas précis, hein, il ne s'agit pas de dessiner Anne-Laure, mais une espèce d'impression comme ça, un a priori de ce à quoi une Anne-Laure peut ressembler. Et ce qu'on voit, c'est que ben, les Anne-Laure se mettent le matin à tendre vers leur stéréotype. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se met à ressembler au stéréotype de son prénom? Eh bien parce que quand Anne-Laure rencontre Yves et qu'il se serre la main et qu'elle dit « je m'appelle Anne-Laure ben, », Yves se dit « bah oui ». Hein, en fait, c'est vrai. Donc, on est plus facile à assimiler par l'autre quand on ressemble au stéréotype de son prénom. Alors maintenant, vous mettez ça en 1820, Catherine ressemble à une Catherine, Pierre ressemble à un Pierre, c'est super pratique, hein, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un Pierre, hein, quand il y en a pléthore. En revanche, vous vous appelez Piccalo, parce que vos parents ont décidé que vous auriez un nom unique, ça rend le contact beaucoup plus difficile. Parce qu'un piccalo, on a un stéréotype quand même qui vient purement de la sonorité. Et j'en parle dans le livre. Hein, un prénom rare, voire unique, va évoquer une forme, mais cette forme est moins familière. Et le fait qu'un prénom soit moins familier fait qu'on va se méfier davantage de son porteur. C'est animal, c'est automatique, il n'y a rien que l'on puisse faire. On se méfie moins d'un Louis en France que d'un Michael ou d'un Kevin, parce que ce sont des prénoms qui sont plus fréquents, qui ont été donnés de façon stable depuis des centaines d'années. Ce n'est pas juste ou injuste, c'est humain, c'est tribal. Voilà. Donc il y a toutes ces dimensions-là sur lesquelles méditer, à mon sens, et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre, afin de vraiment donner ces mécanismes clés en main, si vous voulez, non seulement pour des futurs parents, qui sont une cible évidente, mais également pour toutes ces personnes. Et depuis, vous disiez tout à l'heure, ce livre est la deuxième parution après un premier essai que j'ai fait il y a un an et demi, qui s'appelait « Le pouvoir des prénoms », les principales questions que j'ai eues, c'était plus par rapport à des changements de prénom que par rapport à des dons de prénom. Donc j'ai pris vraiment conscience, en France en tous les cas, d'une vraie problématique autour du prénom. Et encore une fois, ce n'est pas forcément Nabucodonosor qui m'approche. J'ai des Maries, j'ai des Sébastiens, j'ai cette femme qui s'appelle Marie qui est très lancée dans son métier, qui réussit beaucoup hein, de l'extérieur, vous diriez que tout lui sourit.
Et franchement, j'y crois pas, le temps tourne à une vitesse incroyable, vous avez vraiment... C'est incroyable, s'il y a 20 minutes qui sont passées. Et donc, je n'y crois pas du tout, personnellement, à cet aspect psychologique. Mais si je prends le double prénom, par exemple, la première idée qui me vient, c'est que ça appartient à la bourgeoisie. Après, je réfléchis aux gens que je connais qui ont un double prénom, je me demande quelle est leur origine sociale, et ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a des fractions très différentes dans la bourgeoisie. Par exemple, on a une bourgeoisie d'origine universitaire, dans les gens que je connais, des cadres moyens de l'armée, des gens très traditionnalistes, genre Ségolène Royal, qui n'a pas un double prénom, mais qui aurait pu en avoir un, hein, dont le père était militaire. Et donc, je vois bien cet ancrage historique. Hein. Donc, je vois qu'un prénom peut me donner une information ethnique, peut me donner une information historique. Mais là, on n'aura plus le temps. Il ne reste plus que 5 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'horloge.
Non, mais le temps file.
Et donc, c'était sur ce que vous racontez qui est très intéressant, c'est sur la forme, Booba et Kiki, là, c'est donc la prononciation, l'association entre certaines données psychologiques, j'imagine, et la sonorité du prénom, c'est ça?
Alors, en fait, si on peut rembobiner, parce que vous venez de dire que vous ne croyez pas à la dimension psychologique.
Je ne crois pas du tout, à part une grandeur statistique, je ne crois pas du tout ni à la psychologie, ni à ce que soit ça une science. Mais
Alors, lisez mon livre et reparlons-en, Yves.
Si vous voulez.
Parce que les données sont écrasantes. Hein.
Mais parlez-nous de Booba et Kiki, il vous reste 5 minutes.
Oui, non, mais Booba et Kiki, c'est la psychologie, c'est-à-dire que c'est tout à fait indépendant. Vous me parlez de sociologie, hein, quand vous parlez d'histoire, de double prénom. Vous me parlez de la sociologie. Oui. Et en France, on est très empreint de sociologie. Oui. Et c'est très bien. La sociologie a eu beaucoup à dire. Il n'y a pas que la sociologie dans la vie. Il y a l'individu et il y a la résonance psychologique intérieure. Et cette résonance-là, on la comprend aujourd'hui très bien, on a moult données. Je veux dire, c'est pas une opinion hein, que je partage en ce livre, ce sont des données à l'appui. Et donc ce que j'invite le lecteur à faire, c'est regarder ces données et m'expliquer comment, autrement que par le psychologique, vous iriez expliquer ça. Et c'est assez troublant. Et effectivement, Bouba Kiki, c'est un effet qu'on connaît, lui, depuis 90 ans, où l'évocation d'un Bouba, si je vous demande la forme qui vous vient à l'esprit, est-ce que c'est une forme pointue ou une forme arrondie, 98% de l'humanité, quelle que soit la culture, va vous dire que Bouba, c'est quelqu'un de rond, d'arrondi, qui a des grosses boucles, hein, qui peut être gros, et que Kiki, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être un menton pointu, les cheveux raides, une coupe au carré, les cheveux lâchés, et une forme tout à fait différente de Kiki. Donc, effectivement, quand vous appelez Christine, on s'attend à un visage beaucoup plus anguleux que si vous appelez Barbara, où là on attend quelqu'un de beaucoup plus pulpeux. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'intelligence artificielle ? Ben que les Barbara, elles ont tendance à être rondes, à se mettre du blush de façon ronde, à se faire des grosses boucles, à faire des gros chignons bien ronds. Et les Christine, elles ont tendance à se lisser les cheveux, à raidir tout cela, et donc à tendre vers ce stéréotype évoqué par la forme. Et ça, donc, ça n'a rien à voir.
La chanteuse, c'est un contre-exemple alors pour Barbara ?
Qui donc ?
La chanteuse, c'est un contre-exemple ? Vous la trouvez ronde ?
Alors, en science, on ne regarde pas une personne, on regarde des
c'est
millions
une
de personnes.
Statistique, oui.
Voilà, tout à fait. Donc oui, il y aura une distribution.
Bon, bah, écoutez, merci. La science des prénoms, Anne-Laure Cellier, aux éditions Héliopol. J'espère que vous avez bien saisi. On vous mettra tous les renseignements, on vous renverra au lien sur la page du podcast. Merci, maintenant on va écouter un peu de musique, s'il te plaît, Juliette.
Merci. Crime.
Maintenant, le deuxième sujet de la matinée, George Orwell. Et comme il pouvait pas se déplacer, je vais devoir le faire tout seul. J'ai reçu des éditions d'Argo un magnifique album de bande dessinée dû à Christin et Verrier. Je vais vous lire, si je la retrouve. Ça y est, maintenant j'ai égaré à la blague. Donc, né en 1938, Pierre Christin a vécu plusieurs vies, créateur avec Jean-Claude Bézière de Valérian, romancier, fondateur de l'école de journalisme de Bordeaux, grand voyageur. Il est aussi l'un des scénaristes de bandes dessinées les plus célèbres. Auteur d'une centaine d'albums, il a écrit pour des dessinateurs aussi différents que François Bouc, Elki Bilal, Annie Gossinger, André Juillard ou Tardi. Sébastien Berdier, nettement plus jeune, est né en 1972. Lecteur boulimique de romans, il découvre la bande dessinée au collège à l'occasion d'une grippe qui le cloue au lit. Après avoir envoyé plusieurs objets à des éditeurs, il est remarqué par les éditions Claire de Lune qui transmettent son dossier à François Cortegiani, lequel l'associe à Pierre Crestin pour la nouvelle version de PIF en 2004. Sébastien Verdier a signé « Rencontre sur la transsaharienne » avec le même Christin, ainsi que le marathon de Safia et un album de la série Zodiac. Donc c'est un fort album de 150 pages avec une superbe couverture rouge. Et Orwell est quand même un phénomène, c'est quelqu'un qui est dont l'actualité est constante, malheureusement ne change jamais. Par exemple, il y a des minorités en Chine qui ont de gros problèmes en ce moment, les minorités ouïghours et kazakhs, et qui vivent vraiment sous le règne de Big Brothers. Et il illustre, il y avait un éditorialiste du Monde qui a fait un article avant-hier, et qui titrait « Orwell illustre de façon prémonitoire ce qui se passe en Chine ». Donc c'était avant-hier, l'actualité d'Orwell reste constante. Et dans le cycle historique que nous vivons actuellement avec des gens comme Poutine et Trump, il est possible, ce que racontait son éditorial, que la démocratie disparaisse. Il semblerait qu'aujourd'hui, sur Terre, il y ait plus de dictature que de démocratie. Et il dit aussi qu'Orwell dénonçait déjà l'envie occidentale devant le manque de scrupules soviétiques. Donc, avant 45. L'album raconte la vie d'Orwell de façon très détaillée, de façon très complète, et fait quand même aussi 2-3 ouvertures sur un Orwell intime. Et moi, ce qui m'intéresse chez Orwell, c'est quelque chose qui est peu traité dans le livre, ce qui est normal vu que c'est une biographie. Mais ce qui m'intéresse, moi, beaucoup chez Orwell, c'est, comment dire, l'intimité, ce qui faisait marcher Orwell, ce qui était son désir d'être romancier. Ça, c'est quelque chose de vraiment formidable. Et je pense que le grand Orwell est l'Orwell des essais, celui qui... moi, ce qui m'intéresse, c'est Orwell et Joyce, Orwell et Dickens, Orwell et Henry Miller. Quand Orwell part en Espagne, Henry Miller lui file sa veste en cuir. Orwell et Tolstoy, Orwell et Shakespeare. C'est un Orwell qui se cherche tout le temps. Par exemple, quand Orwell part en Espagne, il n'y va pas du tout en Espagne pour se battre. Il va en Espagne en tant que journaliste. Et pour partir, il a besoin d'un papier qui lui permette de franchir la frontière. Et pour avoir ce papier, il doit passer par un parti de gauche. Et donc, il passe par un parti de gauche qui n'est pas le parti avec lequel il va se battre après, mais il finit au POUM. Et le POUM est un parti trotskiste qui va avoir beaucoup d'ennuis avec les staliniens. Mais Orwell n'est en rien trotskiste. Et ça, c'est par exemple quelque chose que Christian n'évoque pas dans sa bande dessinée, mais ce qui me paraît tout à fait normal. Mais par contre, il évoque le Orwell essayiste. Et donc, cet Orwell est né en 1903 aux Indes, alors occupé par les Anglais. C'est le second enfant d'une famille. Son père a 46 ans à l'époque où il naît, et son père est fonctionnaire. Et c'est amusant parce que son père est fonctionnaire au service de l'opium en Inde, donc de la culture de l'opium. Son grand-père paternel avait servi dans l'armée des Indes avant de devenir ministre du culte anglican. Quant à son grand-père maternel, il avait été négociant en teck en Birmanie, puis il s'est consacré à la culture du riz. Donc on a là Orwell qui naît dans une famille de fonctionnaires coloniaux, c'est-à-dire de fonctionnaires de l'Empire. Hein, les Anglais possédaient les 2/3 de la planète pratiquement. Hein, vous savez que l'Australie était anglaise, que le Canada était anglais, que les Indes étaient anglaises, enfin qu'il y avait vraiment beaucoup de pays qui faisaient partie de l'Empire, et cet Empire était géré par un certain nombre de bureaucrates et de militaires, et c'est ça les origines sociales d'Orwell. C'est très important parce qu'il va décrire avec beaucoup de tendresse l'Angleterre, mais il va garder toujours il la voit aussi en étranger, il la voit aussi en quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui a de la distance. Et donc il va aussi passer beaucoup de temps au pensionnat. Donc il grandit sans connaître de vie familiale normale dans une Angleterre qui est essentiellement un port d'attache et qui constituait tout un réseau d'écoles où se formait la future classe dirigeante. Lorsque ce cadre disparaît en 1927, il se trouve dans une Angleterre où il a passé les deux tiers de sa vie, une vie dominée par les institutions et à un moindre degré par une situation familiale. Donc en 1927, il a 24 ans puisqu'il est né en 1903, comme je viens de vous le dire. Et la domination tant politique des hommes que culturelle dans le milieu et le passé était analogue au sien, s'est imposée en Grande-Bretagne dans la première moitié du XXe siècle à un degré tel que la formation de Blair, donc son vrai nom c'est Eric Blair, est généralement décrite comme étant normale et traditionnelle. Selon d'autres critères, quels qu'ils soient, y compris le mode d'existence de la plupart des gens en Grande-Bretagne, cette formation était bien, par bien des côtés, très particulière, voire quelque chose de tout à fait à part. C'est un fait que l'on doit garder en mémoire et souligner lorsque l'on considère les 8 années qui suivent, qu'elles aboutirent à la création de tout un ensemble de nouvelles relations sociales et, chose importante, à la naissance d'une nouvelle identité sociale, telle est l'évolution de Blair devenant Orwell. C'est-à-dire que le premier travail que va prendre la façon dont il va passer à la vie adulte, il va devenir militaire en Birmanie. Mais je viens de penser que Dargo a mis en ligne un interview de Christin que je voulais vous faire écouter au début pour que vous voyez bien la bande dessinée. Ce que je suis en train de vous lire là, ça sort d'un petit livre qui date de 1900, qui a été écrit en 1970 d'un certain Raymond Williams et qui parle d'Orwell d'un point de vue qui me plaît beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai repris le petit livre parce que je ne pouvais pas gloser en partant de la bande dessinée qui est faite de dessins et de bulles. Mais Christin va nous parler pendant 5 minutes de son livre.
George Orwell, c'est un personnage avec beaucoup de facettes. C'est à la fois un romancier, c'est un essayiste, c'est un journaliste, c'est un combattant, c'est un militant. Comme il le disait lui-même, c'est avant tout un écrivain politique. George Orwell s'appelle pas vraiment George Orwell, il s'appelle Eric Blair, et il vient de la frange supérieure de la petite bourgeoisie anglaise. Il y a toujours eu chez lui une espèce d'ambivalence entre son appartenance de classe, qui est très élevée, et sa pensée politique, sa manière de vivre, qui elle est du côté incontestablement des travailleurs, la partie la plus pauvre, la plus déshéritée de la société anglaise. Il va faire les premiers reportages, notamment sous identité masquée. L'un de ses grands livres, qui est donc sur le quai de Wigan, a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de la misère ouvrière. Mais il y a l'autre grand livre, Hommage à la Catalogne. Il est parti pendant la guerre d'Espagne. À la différence de Malraux, qui est quand même venu un petit peu en touriste, ou de Hemingway, il est sur le front d'Aragon et il est dans les tranchées, puis il y reste longtemps. C'est aussi le moment où il prend conscience de la duplicité du mouvement communiste qui prône la révolution, mais qui, en sous-main, collabore avec les pires forces réactionnaires, puisqu'il faut d'abord préserver les intérêts de l'URSS beaucoup plus que de libérer les populations. Et toute sa pensée postérieure contre le communisme, c'est de dévoiler cette double pensée du système communiste qui va vivre littéralement dans sa chair pendant qu'il est en Catalogne, pendant qu'il est blessé et pendant qu'il voit tous ses amis crever, mais pas sous les balles des franquistes, sous les balles des autres. Il est aussi socialiste, une certaine variété de socialisme, anti-marxiste si on veut, qui en fait une espèce de précurseur. Puisqu'il parle évidemment des années dans lesquelles il écrit, 20, 30, 40, mais notamment dans son grand roman d'anticipation, qui est 1984, il parle aussi de l'avenir du socialisme. Il va avoir une espèce d'intuitions bouleversantes sur comment le stalinisme, qu'on n'appelle pas encore tellement le stalinisme à l'époque, mais le communisme, va évoluer en une espèce de dictature cruelle, et pire encore que cruelle, par certains côtés, absurde. Orwell a trouvé une espèce de métaphore avec celle de Big Brother, qui est tout simplement un dirigeant politique de type dictatorial, mais une dictature qui est en quelque sorte plus puissante encore que la dictature des armes, puisque c'est la dictature des idées. Et c'est ça, Big Brother. Il n'y a même plus besoin de faire fonctionner ce qu'on appelle des appareils d'État répressifs. Il suffit de vaincre par les idées pour qu'on puisse dominer une société. Et c'est comme ça qu'il y a les grands slogans orwelliens, du genre « la vérité, c'est le mensonge »,« tout le monde est égal, mais certains sont plus égaux que d'autres ». Ces écrits restent encore d'actualité. Et il faut bien le dire, l'arrivée de Trump, et de façon générale, cette espèce de phase de régression politique dans laquelle vit en tout cas l'Occident, s'est entièrement préfigurée par George Orwell dans ses différents articles et bouquins. J'ai découvert George Orwell quand j'étais très jeune. Ça m'a beaucoup marqué dans ma manière de travailler. Et par exemple, les livres que j'ai faits avec Bilal, Partie de chasse, Les phalanges de l'ambre noir, j'ai fait comme lui. Je suis parti en reportage. Je me suis mis en immersion. Et alors là, je me suis dit, ça pourrait être très intéressant de donner des courts textes, des extraits, des grandes œuvres d'Orwell à d'autres amis dessinateurs, que Sébastien Verdier, lui, il raconte l'histoire, et puis de leur dire, pour transmettre une émotion, plutôt qu'une connaissance d'ailleurs, au lecteur, comment toi, tu te représentes ce qu'a écrit Orwell. Donc j'ai proposé à André Juillard, à Guarnido, à Bilal, etc. C'est aussi une manière de rendre hommage à Orwell, en lui donnant la prééminence, en tout cas visuelle, à l'intérieur du bouquin.
Bon, voilà, ça c'est la présentation de son livre par Christin, et je dois dire que son livre est beaucoup plus riche que la présentation qu'on vient d'entendre. Il y a beaucoup plus d'aspects qui sont soulignés dans le livre. Il y a Orwell intime, il y a Orwell biographique. Là, on le ramène toujours à la ferme des animaux qui l'a rendu célèbre de son vivant, qui est paru très peu de temps avant sa mort. Et on le ramène aussi toujours à 1984, qui est un livre posthume, et c'est, on le ramène à juste titre à ça. Mais ce qui est intéressant, les essais d'Orwell, par exemple, et même sa correspondance, sont absolument fascinants. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, Orwell voulait devenir écrivain, et de son propre point de vue, n'y arrive jamais. Et c'est cette lutte pour devenir écrivain qui est vraiment le fait marquant pour moi dans sa vie. Et son rapport à Joss est très amusant parce que il voit Ulysse comme étant le récit sur un homme normal, sur Monsieur Tout le Monde. Il voit Monsieur Bloom en tant que personne normale, et moi qui ai une longue expérience maintenant de la fréquentation d'Ulysse, je vois plutôt l'agressivité que je ressens des fois chez mes interlocuteurs. Ce livre énerve les gens parce qu'il est très difficile d'accès et d'après les gens. Et bon, pour Orwell, bien sûr, il n'est pas difficile d'accès, pour moi non plus, mais parce qu'on a réussi à passer un certain mur, et après ça devient très familier, mais il y a un gros effort à faire pour passer les 75 premières pages, pour arriver à continuer la lecture. Il y a des clés, il y a des portes à franchir, il y a quelque chose, il faut accepter un certain nombre de... une façon très originale d'écrire, mais c'est pas du tout ce qu'Orwell y voit. Et si Orwell en fait une référence, il en fait une référence au même type que Dickens. Mais c'est vrai que quand on est familier avec Dickens, il y a aussi beaucoup de choses bizarres dans l'œuvre de Dickens. Mais donc Blair voulait devenir écrivain, c'était vraiment ce dont il avait envie. Et son premier livre raconte son expérience en Birmanie. Et dans ce premier livre, il se rend compte qu'il est un tissu de contradictions, c'est-à-dire qu'il déteste autant l'Empire, les les dirigeants que la classe indigène. Il est pris entre deux forces. Et cette réaction complexe, on va la retrouver tout au long de sa vie. Il va très souvent être partagé. Par exemple, quand il va faire une expérience d'immersion avec les pauvres, son accent, parce qu'il est allé à Eton où on formait la classe dirigeante, son accent va le trahir et va représenter une difficulté dans cette infiltration qui deviendra très courante après. Et à la fin de la bande dessinée de Christin, il mentionne un certain nombre d'ouvrages qui ont été fécondés par l'œuvre d'Orwell. Donc, par exemple, Brasil, le film d'un des Monty Python. Et il mentionne le livre d'Obemas sur Huysmans, le quai de Huysmans, qui est un chef-d'œuvre absolu. Est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça? Et donc ça, c'est vrai que les infiltrations deviendront très très fréquentes. C'est quelque chose qui sera beaucoup pratiqué. Quai de Wistram, oui, c'est comme de Florence Obemas, paru en 2010. Et ils vont donner les phalanges de l'Ordre Noir comme bande dessinée, Gattaca comme film, etc. Et donc... Orwell va découvrir l'Angleterre. Et de la même façon, quand il va venir à Paris, par exemple, il va venir dans un Paris qui est le Paris de la fin des années 20, qui est un Paris éminemment littéraire. Par exemple, il va devenir ami avec Henri Miller, dont je parlais avant. Mais on connaît tous ce Paris d'avant la crise de 1929, qui est un Paris qui est vraiment le Paris des artistes, quoi. C'est le Paris qu'Hemingway raconte dans Paris est une fête. Il écrit deux romans pendant son séjour à Paris et ces romans sont perdus, on les a jamais retrouvés. Ensuite, il retourne en Angleterre et c'est là qu'on lui demande qu'il prend un pseudonyme. Il décide de s'appeler Orwell. Orwell est une rivière du Suffolk qui coule au sud de l'endroit où habitaient ses parents. C'est en 1936, il a 33 ans, qu'il reçoit donc une commande pour aller faire un livre d'enquête chez les mineurs. Et pour la première fois, il va donc vraiment se poser des questions politiques. Et c'est encore... Il reste quand même toujours dans cette position d'observateur, de quelqu'un qui a des problèmes de classe, qui se définit pas du tout comme un révolutionnaire. Et c'est en Espagne, quand il va être dans les tranchées, qu'il va vraiment devenir un socialiste révolutionnaire. Et il va publier ensuite, en 38, Hommage à la Catalogne, qui est un passage vraiment très très important dans sa vie, évidemment. Ensuite, il va travailler pour des journaux, il va travailler à la BBC il va devenir très très anglais pendant la guerre, il va devenir churchillien, il va décider à juste titre que l'Allemagne hitlérienne est l'ennemi absolu. Il y a aussi ça, c'est que si on prend le déroulement de ce qui lui arrive, il ne voulait pas particulièrement se mêler de politique, mais la montée des totalitarismes le force à s'occuper de politique. Il a quand même en face de lui d'abord Mussolini, ensuite Staline, ensuite Hitler, ensuite le Japon, enfin un certain nombre d'empires qui ont des visées totalitaires et impérialistes très très violentes. Et donc il va travailler à la BBC pour des programmes à destination des Indes. Ensuite, il devient chroniqueur littéraire en 1933. Il a 40 ans s'il est né en 1903. Je crois qu'il meurt à 47 ans, à 48. 49 ans, oui, il meurt en 49, en 51. Il meurt en 51, on va voir ça plus tard. Il abandonne la BBC pour devenir chroniqueur littéraire au... Tribune. Il se consacre plus régulièrement à la critique littéraire. Voilà. Et il meurt en janvier 1950. Et donc, il avait une épouse qui l'a rejoint en Espagne. Enfin, ça, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Et donc, pour Orwell, il a une dimension tout à fait particulière c'est qu'il connaît le prolétariat des colonies. Et ça, donc, cette dimension est peu soulignée et paraît quand même très importante. Il dit, comme il a toujours cette cette forte impression de la distance entre lui et des gens, il arrive à la reprojeter sur son rapport à la classe ouvrière. Je ne m'imaginais absolument pas que les ouvriers fussent des êtres humains. À distance, je pouvais me lamenter sur leurs souffrances, et pourtant je les haïssais et les méprisais tout à la fois que je m'approchais d'eux. Donc il y a cette dimension de toujours d'étonnement, de surprise. Il fallait qu'il soit dans cette position très particulière. Et c'est la même chose avec l'écriture. Il a une grande méfiance vis-à-vis de l'art pour l'art. Mais c'est une méfiance qui appartient à toute sa génération, qui ne lui est pas particulière. Et la première fois qu'apparaît imprimé le nom de Blair, c'est en tête d'un poème écrit à l'âge de 11 ans. Donc il écrit un poème à l'âge de 11 ans que son père va faire imprimer. Et ce poème a pour titre « Debout, jeune homme d'Angleterre ». Donc il y a toujours cette tension particulière, cette distance. Et il se rend très vite compte qu'il doit fuir l'impérialisme et toute forme de domination. Alors là, je le cite, « L'Angleterre est le pays le plus dominé par l'esprit de classe qui soit, pays du snobisme et des privilèges, essentiellement dirigé par des vieux et des imbéciles. Cependant, dans toute spéculation le concernant, il importe de tenir compte de son unité émotive, de la tendance de presque tous les habitants à penser et agir à l'unisson dans les moments de crise extrême. » Orwell crée le sentiment d'une Angleterre essentiellement simple et policée, une Angleterre vraie, animal éternel qui s'étire dans l'avenir et dans le passé. Si dans la famille commandent ceux qui n'en ont pas le droit, c'est là un simple accident, ou tout au moins un indéniable anachronisme. La grande influence qu'exerce Orwell depuis les années 40 est due à la puissance de cette image, tout autant qu'à n'importe lequel de ses livres les plus connus. Il insiste sur ce que la vie de tous les jours en Angleterre a de paisible et d'accueillant, et sur le fait que ce sont des qualités précieuses dans ce monde où règnent la violence et le crime. Simplicité, gentillesse et esprit de tolérance viennent appuyer cette insistance sur l'honnêteté considérée comme une vertu. C'est ce que Jean-Claude Michéa va développer, c'est la common decency, c'est la politesse en fait, c'est le... L'idéal humain de Orwell est cette common decency, c'est-à-dire des rapports assez structurés entre les humains, sans violence, avec une certaine bienveillance. Et donc, ce qui reste toujours le plus important pour Orwell, c'est ce désir qu'il a de se justifier en tant qu'écrivain. Il vivait à une époque et au sein d'une classe où le fait d'être écrivain posait un problème. Les attitudes envers l'écriture s'étaient durcies, voire polarisées. Dans la bourgeoisie, écrire était considéré comme une activité secondaire. Sauf si ça rapportait de l'argent, à ce moment-là, c'était une activité commerciale. Les choses n'ont pas tellement changé à ce niveau-là. Et donc... Le véritable écrivain ne pouvait pas avoir d'ambition commerciale, ni par essence de fonction sociale et par conséquence aucun contenu social. Il se contentait d'écrire. Ainsi, personnage aisément reconnaissable, se définissant lui-même, il vivait en marge de la société, l'artiste échappé aux conventions. Et donc ça, c'est vraiment une des obsessions d'Orwell, ça revient tout le temps, il en parle tout le temps. Et si Orwell va à Paris, c'est pour être écrivain, c'est-à-dire pour vivre en marge de la société et pour écrire. Il devient l'écrivain conscient de la réalité sociale dans les années 30 plutôt que les stress des années 20. Mais il est tout aussi vrai que vu sous cet angle, il le regrettait parfois ce choix. Dans « Why I Write », c'est-à-dire dans « Pourquoi j'écris » par exemple, il écrit que l'écrivain obéit à quatre motifs. Égoïsme pur et simple, enthousiasme esthétique, impulsion historique, but politique. À une époque différente, dit-il, les trois premiers motifs l'auraient emporté chez lui sur le quatrième. Il aurait écrit des livres au style élégant et simplement descriptif. Ce qui s'est passé, si nous admettons ce qu'il dit, c'est qu'une réalité politique et sociale a pour ainsi dire irrésistiblement envahi son moi naturel. Il est à noter, bien sûr, qu'il considère ce phénomène comme inévitable. Comment un homme, un écrivain pourrait-il rester en marche devant de tels événements ? La manière cependant dont il reconnaît cette réalité reste significative car elle présuppose une situation dans laquelle un écrivain pourrait décider d'affronter ou non une situation politique et sociale. Ce que les années 30 ont de terrible, c'est que nul homme digne de ce nom ne pouvait se dérober. Donc on a quelqu'un avec une réelle aspiration littéraire, un réel désir d'écrire et qui est happé par le réel et qui est le résultat de cette tension. L'invasion de la littérature par la politique devait se produire, elle se serait nécessairement produite, même si le problème particulier du totalitarisme ne s'était pas posé, parce que nous en sommes arrivés à éprouver une sorte de malaise que ne ressentaient pas nos grands-parents. Nous avons pris conscience des injustices et des malheurs de ce monde et éprouvons un sentiment de culpabilité qui nous fait penser que nous devrions faire quelque chose, ce qui rend impossible toute attitude purement esthétique envers l'existence. Nul à présent ne pourrait se consacrer à la littérature avec la concentration d'un Joss ou d'un Henry James, écrit-il. Voilà, là aussi, le temps passe vite. Donc, nous sommes en train de parler d'un magnifique album paru chez Dargaud de Christin et Verdier sur Orwell, et donc qui porte en sous-titre « Ettonien, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jardinier, ermite, visionnaire ». On va écouter un petit morceau de je ne sais pas quoi. C'était donc La vie est un roman sur Allegre FM 93.1. Écoutez, merci de votre écoute et à mardi prochain.
Allegre FM 93.1.